Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour. Exceptionnellement, notre émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à La Ferté-Bernard. Cette ville a un passé historique plutôt riche, puisque Louis VII et Henri II Plantagenet s'y rencontrent, et plus tard, le même Henri II y vient avec son fils Richard Cœur de Lion, qui a beaucoup fait parler de lui plus tard, et notamment avec la reine Bérengère. Le tragédien Robert Garnier, qui a été célèbre au XVIe siècle jusqu'au Royaume-Uni. Les Richelieu, qui vont traîner longtemps dans le coin, et je vous ne parle pas évidemment de l'église Notre-Dame, véritable cathédrale en miniature, et puis on aurait pu parler aussi de la femme de Diderot qui était fertoise, mais on va en rester là et on va directement aborder les livres de Nicole Prunier, qui elle s'est surtout consacrée à la vie quotidienne à travers les siècles. Bonjour Nicole Prunier.
Bonjour.
Alors vous êtes fertoise, mais en fait pas exactement fertoise.
Je suis fertoise que depuis 1979. Moi je suis une accourue.
Une accourue, c'est-à-dire... alors oui, ça c'est un mot que
d'ailleurs.
Je ne connaissais pas. Voilà, ça veut dire, c'est un mot sartois ça?
C'est comme ça qu'on appelle la Sarthe, les gens qui viennent d'ailleurs.
Ce ne sont pas des étrangers,
Il faut poser la question à Serge Bertin.
Voilà, oui, exactement, vous avez raison, je lui poserai la question. Et puis sinon, vous avez été, pour votre carrière, vous avez été cadre infirmier hospitalier.
Oui, j'ai commencé mes études d'infirmière dans les années 60, 62, je ne sais plus. Et j'ai eu mon diplôme d'État et j'ai tout de suite commencé à travailler dans les blocs opératoires, dans différentes cliniques. En 1973, j'étais dans l'Eure, j'étais à Évreux et j'ai été nommée responsable du bloc opératoire de l'hôpital d'Évreux.
Très bien. Et donc maintenant vous êtes une fertoise.
Maintenant je suis en retraite.
Vous étiez une cosmopolite, vous êtes maintenant une fertoise à plein temps.
Exactement.
Alors, on va commencer tout de suite par parler de vos ouvrages. Le premier que vous publiez, c'est en 2013, ce qui est en fait l'histoire d'une laiterie qui était près de la gare de La Ferté. Alors, comment vous est venue l'idée d'aborder un tel sujet? Vous avez découvert des documents qui vous ont incité à le faire? Ou quelqu'un qui vous a inspiré?
Oui, en fait, ça faisait un moment que j'écrivais des petits articles pour la société culturelle du Pays Fertois, la société du Pays Fertois. Et j'ai eu l'idée de m'intéresser aux industries qui étaient en train de disparaître et surtout aux personnes qui avaient travaillé dans ces industries. Et qui étaient toutes assez âgées.
Ce sont souvent des gens qui sont oubliés par l'histoire, ça.
Voilà, c'est ça. Et or, ils ont une mémoire intéressante. Et en particulier, j'ai commencé par la laiterie parce que j'avais pour ami un monsieur qui avait été directeur de cette laiterie. Et il me disait, quand il me parlait de son ancien travail, il me disait, oui, mais quand je serai mort, tout ça, ça sera oublié.
Eh bien non.
Eh bien non.
Eh bien non, il y a un livre qui rappelle son existence.
En faisant des recherches sur cette laiterie, que j'ai découvert qu'en fait, c'était le docteur Henri de Rothschild qui était à l'origine de sa création.
Alors, ça aussi, c'est un peu mystérieux, parce que c'est un personnage quand même. Les Rothschild, c'est un nom que tout le monde connaît. Comment ce monsieur s'intéresse à une laiterie à La Ferté-Bernard?
Il était médecin, et à cette époque-là, on se préoccupait beaucoup de la mortalité infantile. Paris grossissait, grandissait, les fermes s'éloignaient, puis le lait n'arrivait plus en bon état. On avait ce qu'on appelait les laitières des portes cochères qui vous vendaient un lait falsifié, très dangereux pour les enfants.
Oui, oui, oui.
Et donc son idée, c'était...
Son idée, c'était du lait bien...
Voilà,
bien propre, si j'ose dire.
En fait, le lait qui était ramassé dans les fermes dans la journée, avec des charrettes et des chevaux, partait sur des wagons. Les bidons partaient sur des wagons et étaient distribués. Les trains roulaient de nuit.
D'où la proximité de la gare.
Voilà, il y avait même une voie directe qui allait de la laiterie à la gare. Et le lait était distribué le lendemain matin à Paris. Donc c'était du lait frais et sain et entier.
Et c'est, voilà, ça c'est aujourd'hui ça nous semble naturel d'acheter du lait bien, bien nickel, mais c'était pas toujours le cas à l'époque.
Non, c'était pas le cas, non.
Et voilà que je fais une fontaine de l'huile. Et voilà que je suis une fontaine de lait. Et la vallée éblouie sous les arbres du lilas.
Et puis vous remettez le couvert, si j'ose dire, en 2015 avec l'usine à gaz qui a été construite en 1881. Alors j'imagine qu'elle avait une importance capitale à l'époque parce qu'il fallait non seulement se chauffer, mais il fallait aussi s'éclairer avec le gaz.
Oui, au début, c'était surtout pour fournir l'éclairage. Et on s'est aperçu qu'on pouvait aussi chauffer, faire la cuisine avec ce gaz.
Ah oui, ça a été découvert dans un deuxième temps.
Et l'usine à gaz a été aussi construite près de la gare parce que le charbon arrivait par le train.
Toujours puis à l'époque, hein, voilà, c'était le train. Hein. Il y avait les voitures, c'est arrivé plus tard. Tout à fait. Et puis ça a été remplacé par le propane. À un moment donné.
Oui, c'était des citernes qui arrivaient.
Oui, c'est ça.
Et puis, bon, le gaz de ville, donc les gazomètres ont été supprimés. Il ne reste plus rien. Il restait un petit morceau du puits d'où partaient les canalisations. Et récemment, il y a un arbre qui est tombé dessus.
Alors du coup, donc, c'est bouché tout ça.
Il reste pas grand chose. Il reste
pas grand chose.
Un tout petit vestige.
Voilà. Et puis si vous m'avez dit tout à l'heure qu'il reste un lampadaire.
Il reste un bec de gaz.
Un bec de gaz, ça s'appelle.
Qui avait servi au moment de l'électrification, on y a mis, je sais plus comment on appelle ça, un isolant là. Et puis en fait, ça a sauvé ce bec de gaz.
Donc c'est voilà le dernier élément de mémoire de l'usine à gaz.
La poignée dans le coin défile toute la vie. Pour l'usine à gaz, j'ouvre le gaz et je file. Pour l'usine à gaz, et la route défile. Pour l'usine à gaz, limite sur un fil. Mon usine à gaz. Mon usine à gaz.
À l'écoute des mots. Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Bien, alors on continue dans cette série. En fait, vous en avez fait quatre comme ça, hein, qui commence par à chaque fois à La Ferté-Bernard. Il y avait. Alors
oui,
il y avait donc, on l'a dit, une usine à gaz, une laiterie. Et puis cette fois-ci, vous en avez fait un sur les tisserands.
La Ferté, c'était une grande ville, une ville où il y avait énormément de tisserands. Presque toute la ville vivait du tissage. C'était le tissage de chanvre hein, qui était produit dans la région.
Oui, alors dans toute la Sarthe, hein, je crois que de toute façon,
toute
le chanvre, c'était
oui.
très présent, hein, oui. le chanvre. Et puis on faisait avec ça du tissu, évidemment.
Alors c'était quand même des tissus assez grossiers, hein. C'était des sacs pour...
ou des sacs, pour, ouais, des choses comme ça.
On n'avait pas de cajots à l'époque, hein. C'était le blé, tous les grains étaient mis en sac.
Et puis là aussi, le chanvre est devenu de moins en moins attractif. Ça a été remplacé par
des fibres qui venaient d'Asie.
Voilà, ça commençait déjà. La Chine commençait déjà à nous envahir avec leurs produits. Et puis les tissus synthétiques, etc.
C'était moins cher.
Et puis voilà, les prix étaient moins élevés, donc
et
évidemment.
Il y a eu le nylon, les plastiques.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant à chaque fois, on va aborder aussi les moulins à eau tout à l'heure, mais ce qui est très important, c'est effectivement, vous l'avez dit au début, c'est qu'à travers ça, c'est toute la vie sociale qui transparaît. C'est pas seulement le patrimoine industriel, c'est aussi les gens qui travaillaient dedans, c'est des métiers qui disparaissent.
C'est des gens qui se retrouvent... être obligé d'aller travailler dans les nouvelles usines, comme par exemple Souriau. Il y a beaucoup de tisserands qui sont allés travailler chez Souriau, d'après ce qu'elles m'ont dit.
Oui, alors évidemment.
Mais c'est intéressant de les entendre raconter leur vie, qui était quand même une vie dure.
Ah oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé des gens encore vivants pour vous raconter leurs souvenirs.
Oui, à cette époque-là, je crois qu'il y en a pas mal qui sont morts depuis.
Depuis, oui, mais bon, ça c'est précieux quand même.
C'était très intéressant de discuter avec eux, puis de voir aussi qu'ils avaient de bons souvenirs finalement.
Même si c'était des métiers durs.
Ils étaient heureux de parler de leur... Il y en a très peu. Il y a juste un monsieur un jour qui m'a dit « Non, je ne veux pas parler de tout ça, ce n'est pas des bons souvenirs pour moi. »
Ah oui, quand même.
Mais c'est très rare. Et en principe, je les voyais heureux de raconter ce qu'ils avaient vécu.
Il y avait quand même une certaine nostalgie.
Je me suis dit aussi que c'était peut-être parce que c'était le temps de leur jeunesse.
Oui, c'est ça. On a, ils avaient. Alors cela dit, c'est vrai que là vous dites certains sont allés travailler chez Souriau, etc., dans des entreprises. Mais je suppose qu'il y en a. Ça a été une véritable démolition de la vie familiale. Il y en a qui dans toutes les entreprises qui s'effondrent comme ça, il y a des drames sociaux, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent sans boulot et qui n'en retrouvent pas. J'imagine qu'il y a eu des cas aussi très difficiles comme ça, j'imagine.
C'est-à-dire qu'il y a une époque où de nouvelles usines se sont installées, mais ce n'est plus le cas maintenant, je pense que...
Oui, à l'époque, ça allait encore parce qu'il y avait effectivement de nouvelles entreprises qui compensaient, quoi. Mais aujourd'hui, ce serait aujourd'hui. Ce serait peut-être un peu plus compliqué. Hein.
Et puis, il y a des... Je sais que la Socopa embauche beaucoup, mais c'est un travail très dur. Hein.
Ouais, là aussi, c'est un travail très dur. Ouais. Alors ensuite, le quatrième et dernier, c'est en 2019. Cette fois-ci, on passe au moulin à eau. Alors, j'ai relevé qu'on relève de l'existence de ces moulins à eau depuis au moins le XIIe siècle.
Au moins,
ce
oui.
qui veut dire que peut-être qu'il y en avait, avant, mais il n'y a pas de trace.
On n'a pas de trace. Étant donné qu'il y a beaucoup de rivières, de bras de rivières qui se croisent...
Bah oui, la Ferté-Bernard, hein, il y a beaucoup d'eau à la Ferté-Bernard.
C'est pas la petite Venise de l'Ouest pour rien.
Ouais, la petite Venise de l'Ouest, on l'appelait. Ouais.
Donc évidemment, on a broyé du blé, mais on a aussi broyé du thym, c'est-à-dire de l'écorce de chêne pour les tanneurs. Il y avait
pour tanner le cuir.
Énormément de tanneurs aussi à la Ferté, vu le nombre de rivières. Entre les périodes de broyage du thym, ben on broyait des graines de luzerne et autres.
Il y avait le lin aussi, j'imagine, par exemple.
Il y avait du lin aussi, oui.
Ouais, ça c'est des genres de choses qu'on utilisait beaucoup, ouais.
Il y a eu aussi des moulins à foulon. Il y a eu un grand moulin à foulon, mais à partir du moment l'eau a tellement de puissance qu'à partir du moment où on a une roue qui fonctionne dans l'eau, on peut brancher n'importe quel instrument dessus.
Oui, c'est ça. En fait, un moulin, c'est à la fois écologique, parce qu'on utilise la force de l'eau, et puis avec ça, on produit ce qu'on veut. Avec des moulins, on a même fait de l'électricité, on a produit de l'électricité.
Oui, par la suite, on a produit.
Et on pourrait le refaire aujourd'hui, d'ailleurs.
On a fait fonctionner, par exemple, des forges. À Auteuil, il y avait des grandes forges qui fonctionnaient avec les moulins.
On faisait de la glace, moi j'ai dû le relever, on faisait de la glace.
Le moulin du pavillon a produit de la glace, oui.
Voilà, du sucre.
Alors on peut On peut scier du bois, on peut scier voilà. des pierres, on peut concasser des pierres, on peut concasser du plâtre.
On faisait du plâtre, des draps.
Là, j'avais... C'est les moulins foulons.
C'est le foulon, ça.
Quand les draps sont tissés, il faut les fouler pour les nettoyer, parce qu'ils sont pleins d'impuretés, ils sont gras, ils sont...
Donc, ce qu'on découvre dans votre livre,
Les cylindres qui servent à repasser ces draps fonctionnent aussi avec le moulin.
Ah, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est que... On se rend compte qu'un moulin, on pense tout de suite au meunier qui fait sa farine.
Non, mais c'est pas que ça.
Mais c'est pas que ça. Voilà, un moulin, c'est universel.
Dans le Massif Central, par exemple, il y avait des moulins qui permettaient d'aiguiser les fameux couteaux.
Ah aussi. Du coup, on utilisait cette pierre-là qui tourne.
C'est assez rigolo parce que les aiguiseurs étaient couchés à plat ventre au-dessus de leur meule.
Ah oui, c'est amusant ça, oui. Donc voilà, il y a 4 ouvrages. Alors, je crois savoir que malheureusement, ils sont tous épuisés.
Ah non, la laiterie est épuisée, mais les autres...
On peut encore les avoir, d'accord. Et sinon, vous m'aviez dit hors antenne qu'ils existent aussi en numérique sur Internet.
Alors la laiterie, comme elle est épuisée, elle a dû être mise en numérique sur le site de la Société du Pays Fertois.
Donc voilà, si vous voulez essayer de le trouver sur Internet, vous tapez à la Ferté-Bernard, il y avait, point de suspension, une laiterie, par exemple. Et vous faites la même chose pour les 3 autres livres, et vous trouverez peut-être des traces, ou des livres d'occasion que vous pouvez acheter sur Internet.
Ils sont encore en vente chez Papyrus, au Centre culturel Leclerc, et à l'Office du Tourisme.
Bon.
Et puis bien sûr, au siège de l'association... qui est ouvert dans les jardins de l'Office de Tourisme le samedi matin.
Vous demander où à quelle adresse, très bien.
Le 15 rue
15 place de la Lys, oui, c'est ça. Et puis là, on va passer à un autre registre complètement.
Oui,
votre tout dernier bébé. Ça change complètement. Le format change. C'est un beau livre qui a été publié en 2022. Et il s'agit d'une biographie, si on veut, mais d'une biographie familiale, puisqu'il s'agit de celle de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, en 1641, achète la baronnie de la Ferté-Bernard. Et puis... C'est un monsieur qui a le sens des affaires, parce qu'il va faire vraiment une bonne affaire avec la Ferté-Bernard.
Oui, apparemment, oui.
Ouais, hein, parce qu'il est propriétaire de la Ferté-Bernard, mais de plein de communes autour.
Mais la baronnie de la Ferté-Bernard, en principe, c'est la ville close de la Ferté-Bernard. Ville close, c'est-à-dire enceinte de murs et fermée avec des portes qui ferment la nuit. Le château, bon, qui est en ruine quand même depuis assez longtemps. Et puis 29 villages... Des bois, des fermes, des moulins, des...
Tout ça, ça rapporte des sous.
Des fours à pain.
Tout ça, ça rapporte.
Puisqu'on payait pour tout, hein, pour aller faire cuire son pain, il fallait payer au four banal.
Oui, plus on était pauvre, plus il fallait payer.
Voilà, et d'ailleurs dans ce livre, j'ai essayé de mettre en parallèle la vie des Richelieu et puis la vie des Fertois, qui n'est pas toujours...
Là encore, vous restez sur ce... voilà, pendant ce temps-là, comment vivent les Fertois en parallèle, ouais. Ça, voilà. C'est intéressant, ouais. De ne pas oublier que dans l'histoire, il y a une vie quotidienne des citoyens, ouais. Et puis donc, les Richelieu vont rester très longtemps ici, puisque le dernier s'en va en 1952.
Oui, alors en fait, la baronnie, enfin le domaine est vendu, faute d'héritier, elle est vendue en 1838. Le château est vendu, je dirais, à la découpe. Comme à la Révolution, les lois ont changé, en particulier les lois sur l'héritage. Le cinquième duc a été obligée de partager son héritage avec ses deux demi-sœurs. Et l'une d'elles, qui s'appelait Simplicie de Richelieu, qui était mariée avec un marquis de Jumillac, a hérité de la ferme du Haut-Buisson. Et quand le domaine a été vendu en 1838, elle a racheté des propriétés autour de cette ferme du Haut-Buisson pour en faire un grand domaine sur lequel son fils, un de ses fils, a construit le fameux château du Haut-Buisson. On dit 1847 à peu près.
Je rappelle quand même que Alice de Monaco a été propriétaire, la princesse de Monaco.
Elle n'a jamais été propriétaire.
Ah bon ?
Non. C'est ses fils qui ont hérité.
Mais elle a habité dedans quand même.
Par contre, elle l'a habité.
Ah oui, elle l'a habité.
Elle l'a mis en valeur, elle en a fait un endroit couru. On dit que les Anglais n'hésitaient pas à traverser la Manche pour un dîner chez Alice de Monaco.
Ouais. Alors moi, j'avais vu que Pierre Loti, par exemple, était venu. Ça fait partie des anecdotes qui...
C'était... il y avait un tas de personnages célèbres qui venaient
qui
là.
Qui sont passés par là, voilà.
Aussi bien le sultan du Maroc que le Maharaja de je ne sais où... c'était une vie...
Comme à Monaco, mais ici à La Ferté. Une vie de princesse.
Mais une vie qui s'est arrêtée à la mort de la princesse en 1925.
C'est là que tout a commencé
tout a commencé à régresser. Et puis son fils, qui était donc le dernier duc de Richelieu, a fait don du domaine à la Sorbonne.
Voilà, puis la Sorbonne...
La Sorbonne l'a utilisée pendant un certain temps. Il y avait un centre de recherche. Ils ont répertorié la faune. Enfin, moi, je ne suis pas habilitée pour vous parler de ça.
Oui, c'est des recherches biologiques, surtout.
Biologiques. La faune, la flore plutôt, de la région a été répertoriée. Mais malheureusement... le château était quand même trop loin de Paris, un peu trop isolé, et puis
accès trop
ils
difficile.
L'ont abandonné aux pilleurs. Quoi. Par contre, les documents et les principaux meubles ont été quand même
sauvés.
Ils sont à la Sorbonne. Il y a un fonds, je ne sais plus, c'est Victor Cousin, je crois, il y a un fonds qui peut être intéressant
à étudier.
Ouais,
tout à fait.
Malheureusement, moi, je n'ai pas l'énergie pour ça.
Ouais, il faudrait que quelqu'un s'y colle, comme
c'est
on dit.
C'est un travail de jeunes.
Un travail pour les jeunes, voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie. Juste une chose avant qu'on se sépare. Est-ce qu'il y a un projet sur le feu? Vous êtes en train de travailler
oui,
sur...
Bon, moi, je travaille toujours, oui. Et je m'intéresse beaucoup à certaines maisons que je dirais remarquables. Soit des anciens hôtels particuliers du XVIIe siècle, par exemple, et puis des maisons plus récentes de la fin du XIXe siècle.
Vous voulez faire une sorte de répertoire, raconter leur histoire?
Je ne sais pas encore.
Vous êtes en train vous êtes en train d'y réfléchir.
Je travaille dessus et puis on verra plus tard.
D'accord, bon, on se reverra si ça se traduit par un livre. On se reverra.
Si Dieu me prête vie, comme
voilà.
On dit.
merci à vous.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour la suite de vos recherches.
Merci beaucoup.
Bien, et si l'histoire de La Ferté-Bernard vous intéresse, vous l'avez compris, ce sont les livres de Nicole Prunier qu'il faut lire. Et puis ensuite, avec les livres sous le bras, vous venez passer un week-end à La Ferté-Bernard, sur les traces du passé, mais aussi pour admirer l'eau qui y coule, raison pour laquelle on l'appelle la Venise de l'Ouest. Voilà, vous avez de bonnes raisons de vous faire une promenade au printemps qui approche là. Merci à vous et à la prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.